Emmanuel Kant, La religion dans les limites de la raison. Troisième partie. De la victoire du bon principe sur le mauvais et de l'établissement d'un règne de Dieu sur la terre. Le combat que tout homme animé de bonnes intentions morales doit soutenir dans cette vie, sous les ordres du bon principe, contre les assauts du mauvais, ne peut, quelques efforts qu'il fasse, lui procurer de plus grands avantages que sa délivrance à l'égard de la domination du mal. Devenir libre, ouverture de guillemets, être affranchi de l'esclavage du péché pour vivre selon la justice, fermeture de guillemets, c'est le gain suprême qu'il puisse faire. Toutefois, il n'en reste pas moins exposé aux agressions du principe mauvais. Et pour garder sa liberté intacte au milieu d'attaques continuelles, il doit toujours être sous les armes, prêt au combat. Or, si l'homme se trouve dans cette situation périlleuse, il le doit à sa propre faute. Aussi est-il tenu, dans la limite du possible, de déployer au moins la force dont il dispose pour en sortir. Mais comment s'y prendre? C'est la question. S'il cherche les causes et les circonstances qui lui font courir ce danger et qui l'entretiennent autour de lui, il peut se convaincre aisément qu'elles proviennent moins de sa propre nature brute, celle d'un individu vivant seul, que des hommes avec lesquels il est en contact ou en relation. Ce ne sont pas les excitations de sa nature qui éveillent en lui les passions, ces mouvements désignés par un mot si juste, qui causent de si grands ravages dans ses dispositions primitivement bonnes. Il n'a que de petits besoins, et les soucis qu'il lui procure laissent son humeur modérée et calme. Il n'est pauvre, ou ne se croit-elle, qu'autant qu'il a peur que les autres hommes puissent se croire pauvres et le mépriser pour cela. L'envie, l'ambition, l'avarice et les inclinations haineuses qui l'y suivent assaillent sa nature essentiellement modérée dès qu'il vit au milieu des hommes. Et il n'est même pas besoin de supposer ces hommes déjà enfoncés dans le mal, lui donnant de mauvais exemples. Il suffit qu'il soit là, qu'il l'entoure, et qu'ils soient des hommes pour qu'ils se corrompent les uns les autres dans leur disposition morale et qu'ils se rendent mutuellement mauvais. Si donc il n'était pas possible de trouver le moyen d'établir une société destinée tout particulièrement à sauvegarder les hommes du mal et à les guider vers le bien, association permanente, à extension continue, visant uniquement à maintenir intacte la moralité et opposant au mal ses forces réunies, alors, quelques efforts que chacun, pris à part, eût pu faire pour échapper à sa domination, le mal le tiendrait, malgré tout, constamment menacé du risque de retomber sous son emprise. Le triomphe du bon principe dans la mesure où les hommes y contribuent n'est donc réalisable, autant qu'il nous est permis d'en juger, que par la fondation et l'extension d'une société gouvernée par les lois de la vertu et n'ayant pas d'autre fin qu'elle. Société à qui la raison donne pour tâche et pour devoir de rallier tous les humains à ce règne dans son ampleur. Et cette société, la raison donne au genre humain tout entier pour tâche et pour devoir de la former en son sein. En effet, on ne peut que de cette manière espérer pour le bon principe la victoire sur le mauvais. Outre les lois qu'elle prescrit à chaque individu, la raison morale législatrice déploie encore un étendard de la vertu comme signe de ralliement autour duquel viendront se rassembler tous les amis du bien pour arriver enfin à triompher du mal et de ses attaques incessantes. Une association des hommes sous les seules lois de la vertu, comme le prescrit cette idée, peut s'appeler une société morale. Et lorsque ces lois sont publiques, elle peut s'appeler, par opposition à la société juridico-civile, une société éthico-civile ou encore une république morale. Cette république peut se fonder dans une société politique existante et même réunir tous les membres qui la composent. À dire vrai, les hommes n'auraient jamais pu la constituer sans avoir comme fondement cette autre société. Mais la république morale a un principe d'association particulier et qui lui appartient en propre, la vertu. Elle a aussi, en conséquence, une forme et une constitution qui diffèrent essentiellement de la forme et de la constitution de l'autre. Toutefois, on découvre une certaine analogie entre ces deux sortes de sociétés, à les considérer comme républiques en général. Et sous ce rapport, la première peut être appelée comme un état moral, c'est-à-dire un royaume de la vertu, du bon principe. Royaume ou état dont l'idée trouve dans la raison humaine sa réalité objective, parfaitement fondée. Entendez le devoir de se grouper pour former un pareil état. Bien que, subjectivement, il n'y ait jamais à attendre du bon vouloir des hommes, qu'ils arrivent à se décider à collaborer dans ce but, avec harmonie. Première section. Représentation philosophique de la victoire du bon principe grâce à la fondation d'un règne de Dieu sur la terre. Grand 1. De l'état de nature au point de vue moral. On nomme état juridico-civil ou politique les relations qui existent entre les hommes en tant qu'ils sont collectivement régis par les lois publiques de la justice, lois qui toutes sont de contrainte. Un état éthico-civil est celui où les âmes sont unies par des lois dépourvues de contrainte, c'est-à-dire par les simples lois de la vertu. Or, ainsi qu'au premier s'oppose l'état de nature, juridique, qui, bien que légal, n'est pas toujours juste, il faut distinguer du second l'état de nature morale. Dans ces deux états de nature, chacun se donne à lui-même sa loi, et il n'existe pas d'obligation extérieure à laquelle il s'avoue, comme tous les autres, soumis. Dans ces états, chacun reste son propre juge, sans qu'il y ait une autorité publique puissante qui décide en dernier ressort, suivant des lois, quel est le devoir de chacun, dès que l'occasion s'en présente, et qui fasse accomplir ce devoir par tous. Une fois qu'est fondée la communauté politique, les citoyens qui la composent se trouvent, nonobstant leur qualité civile, dans un état de nature morale et ont pleinement le droit d'y rester. Demander au pouvoir public qu'ils contraignent leurs citoyens à entrer dans une république morale, ce serait en effet une contradiction, étant donné que cette république, dans l'idée que nous en avons, exclut déjà toute contrainte. Certainement, tout pouvoir politique peut souhaiter de voir s'établir en son sein un gouvernement qui mène les âmes avec les lois de la vertu. Car lorsque les moyens de contrainte dont il dispose se trouveraient insuffisants, parce que les juges humains ne peuvent point scruter le cœur des âmes, les sentiments vertueux feraient le nécessaire. Mais malheur au législateur qui voudrait réaliser par la force une constitution ayant pour objet des fins morales. Car non seulement, de cette manière, il réaliserait justement le contraire d'une constitution morale, mais il saperait même et rendrait chancelante sa constitution politique. Le citoyen d'une société politique, en ce qui regarde le droit qu'a cette dernière de légiférer, demeure donc pleinement libre de s'associer avec d'autres concitoyens pour constituer une union morale, ou de rester, s'il le préfère, dans l'état de nature, au point de vue moral. Mais comme une république morale s'appuie cependant sur des lois publiques et doit avoir une constitution qui les prenne pour fondement, ceux qui s'engagent librement dans cette association, s'ils n'ont pas d'ordre à recevoir des pouvoirs politiques sur la façon dont ils doivent ou non en régler le fonctionnement, doivent pourtant se laisser fixer des limites. Je veux dire accepter cette condition de n'y rien admettre qui aille contre le devoir civique de ses adeptes. Et même s'il s'agit d'une association morale d'une parfaite pureté, on n'a pas du tout à avoir de telles préoccupations. D'autre part, les devoirs moraux concernant tout le genre humain, le concept de république morale est toujours relatif à l'idéal d'un tout comprenant tous les hommes et diffère ainsi du concept de république politique. Par suite, une association nombreuse d'hommes réunis dans ce but ne peut pas encore être dite une république morale. Elle constitue seulement une société particulière qui aspire à l'accord unanime de tous les hommes, et même de tous les êtres raisonnables finis, pour établir dans l'absolu un tout moral, dont chaque société partielle n'est qu'une représentation ou un schème, chacune pouvant à son tour, par rapport aux autres, de même espèce, être représentée, comme se trouvant dans l'état de nature morale, avec toutes les imperfections qu'il implique. C'est la situation des divers états politiques que ne réunit point un droit public des gens. Grand 2, l'homme doit sortir de l'état de nature morale pour devenir membre d'une république morale. De même que l'état de nature juridique est un état de guerre de tous contre tous, de même l'état de nature morale est un état d'incessantes hostilités, auquel est en but de bons principes qui se trouvent en chacun de nous. De la part du mauvais principe, qui se rencontre également dans tous les hommes, lesquels, nous l'avons dit plus haut, corrompent mutuellement leurs dispositions morales, et même, en dépit de leur bon vouloir individuel, manquant d'un principe d'union, tout comme s'ils étaient des instruments du mal, s'éloignent, par leur désaccord, de leur fin commune, le bien, et se mettent tous en danger de retomber sous la domination du principe mauvais. Or, de même que l'état de liberté extérieure anarchique, brutale, et d'indépendance absolue à l'égard de lois coercitives est un état d'injustice et de guerre de tous contre tous, dont l'homme doit sortir pour former une société politique et civile. Note. En effet, si l'on n'admet pas d'emblée qu'entre des hommes qui ne connaissent point de lois extérieures et publiques règnent en tout temps de réelles hostilités, il n'en est pas moins vrai que l'état de ces hommes, c'est-à-dire la situation dans laquelle et grâce à laquelle on les voit capables de droit d'en acquérir et de les conserver, est un état dans lequel chacun d'eux veut être lui-même le juge de ce qui est son droit envers et contre d'autres, mais aussi où il n'a et ne fournit aux autres, relativement à ce droit, d'autres garanties que sa propre force. Ce qui est un état de guerre où il faut constamment que tous soient armés contre tous. Car l'état de nature est une violation continuelle des droits de tous les autres hommes par la prétention qu'a chacun d'être juge en sa propre cause et de ne laisser à ses hommes, pour ce qui regarde leur bien, d'autres garanties que sa fantaisie et ses décisions arbitraires. Fin de la note, retour au texte. Or, de même que l'état de liberté extérieure, anarchique brutale, et d'indépendance absolue à l'égard de lois coercitives, est un état d'injustice et de guerre de tous contre tous, dont l'homme doit sortir pour former une société politique et civile. De même, L'état de nature morale est un état d'hostilité mutuelle, publique, contre les principes de la vertu, et un état d'immoralité intérieure dont l'homme naturel doit chercher à sortir aussitôt que possible. Or, c'est là un devoir d'un genre spécial. Non des hommes envers les hommes, mais du genre humain envers lui-même. Toute espèce d'être raisonnable est, en effet, objectivement destinée, dans l'idée de la raison, à une fin commune, qui est de travailler à l'avènement du souverain bien, bien suprême commun à tous. Mais comme le bien moral suprême ne peut être réalisé par l'effort de la personne, travaillant isolée à son propre et seul perfectionnement moral, et comme il exige au contraire une association des personnes en un tout qui poursuivent une même fin, l'organisation d'un système d'hommes bien intentionnés, dans lequel et par l'unité duquel peut seulement être réalisé le bien suprême, comme d'autre part, l'idée de ce tout ou d'une république universelle gouvernée par les lois de la vertu est une idée tout à fait différente des lois morales ordinaires qui concernent des choses que nous savons être en notre pouvoir, puisqu'il s'agit d'opérer sur un tout sans qu'il nous soit possible de savoir si, comme telle, cette obligation est aussi en notre pouvoir. Nous avons ici un devoir qui, par sa nature et par son principe, se distingue de tous les autres. On aperçoit déjà par anticipation que ce devoir implique l'intervention d'une autre idée. Je veux parler de celle d'un être moral supérieur qui, par ses dispositions générales, conduit les forces, insuffisantes en soi, des individus à se grouper pour une action commune. Mais il nous faut nous laisser guider tout d'abord par le fil conducteur de ce besoin moral en général et voir où il nous conduira. Grand 3. Le concept d'une république morale est le concept d'un peuple de Dieu gouverné par des lois morales. Pour qu'une république morale se constitue, il faut que tous les individus soient soumis à une législation publique et que toutes les lois qui les obligent puissent être considérées comme des commandements d'un législateur commun. Si la République à fonder devait être juridique, il faudrait que le peuple agroupé, en un tout, fût son propre législateur pour les lois constitutionnelles, car la législation part du principe que la liberté de chacun a pour borne les conditions où elle est compatible, d'après une loi générale, avec la liberté de tous. Et la volonté générale y établit par suite une contrainte extérieure légale. Mais quand il est question d'une république morale, le peuple, comme tel, ne peut pas être lui-même considéré comme législateur. Dans une telle république, toutes les lois ne visent, en effet, d'une façon tout à fait spéciale, qu'au développement de la moralité des actes, chose tout intérieure, et par suite, échappant à des lois humaines publiques. Tandis que les lois extérieures, constituant une société juridique, s'occupent seulement de la légalité des actes, chose qui tombe sous licence et non de la moralité interne. Seule chose ici en question. Il faut donc que ce soit un autre que le peuple qui puisse être donné comme législateur public d'une république morale. Pourtant, des lois morales ne peuvent pas non plus être conçues comme émanant en plus, originairement de la volonté de ce chef. Entre parenthèses, comme des statuts qui, en quelque sorte, avant d'être édicté par lui, ne saurait être obligatoire. Car elles ne seraient pas alors des lois morales, et le devoir qu'elles imposeraient ne serait pas une libre vertu, mais une obligation légale et susceptible de contrainte. Celui-là seul peut donc être conçu comme législateur suprême d'une république morale, de qui nous devons nous représenter que tous les vrais devoirs, et par suite aussi les devoirs moraux, sont en même temps les commandements, et qui, par conséquent, doit posséder aussi le pouvoir de sonder les cœurs pour pénétrer les intentions les plus cachées de tous. Et comme c'est la règle dans toute société, rendre à chacun selon ses œuvres. Mais c'est là le concept de Dieu, en tant que chef moral du monde. Une république morale implique donc un peuple soumis à des commandements divins. C'est-à-dire n'est concevable que grâce à l'idée d'un peuple de Dieu, d'un peuple régi par des lois morales. Note. Dès que l'on reconnaît une chose comme un devoir, n'aurait-elle été imposée que par la décision d'un législateur de ce monde? Dieu nous donne aussi l'ordre de nous y conformer. Sans doute, on ne saurait à des lois civiles et statutaires donner le nom d'ordre divin. Mais quand elles sont justes, Dieu nous fait un commandement de leur observation. La proposition, ouverture de guillemets, on doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, fermeture de guillemets, signifie seulement qu'au cas où ces derniers ordonnent des choses mauvaises en soi, directement contraire aux lois morales, on n'a ni le droit ni l'obligation de leur obéir. Mais en revanche, quant à une loi politico-civile non immorale en soi, est opposée à une loi statutaire qu'on regarde comme divine, on est fondé à la supposer apocryphe, puisqu'elle s'oppose à un devoir clair, sans que jamais elle puisse elle-même attester que réellement, elle est commandement divin par des caractères empiriques et de manière suffisante à permettre qu'on aille, en lui obéissant, contre un devoir d'ailleurs bien établi. Fin de la note, retour au texte. On pourrait bien aussi concevoir un peuple de Dieu régi par des lois statutaires, c'est-à-dire par des lois auxquelles il faudrait obéir non pas en vue de la moralité, mais seulement de la légalité des actes, et l'on aurait alors une société juridique, dont Dieu serait, sans doute, le législateur, dont la constitution serait par conséquent une théocratie, mais où des hommes ayant reçu de lui directement, en qualité de prêtre, les commandements qu'ils édictent, constitueraient un gouvernement aristocratique. Mais une pareille constitution dont l'existence et la forme reposent entièrement sur des bases historiques n'est pas celle dont la raison moralement législatrice a pour mission de s'occuper et dont la solution est la seule chose à laquelle nous devons travailler ici. Nous l'examinerons dans la section historique comme une institution ayant des lois politico-civiles et un législateur qui, bien que Dieu, n'en est pas moins externe, tandis qu'ici, nous n'avons à parler que d'une constitution à législation simplement interne, d'une république soumise aux lois de la vertu, c'est-à-dire d'un peuple de Dieu adonné à de bonnes œuvres. À ce peuple de Dieu, on peut opposer l'idée d'une bande qui réunit, pour la diffusion du mal, les partisans du principe mauvais, ayant tout intérêt à empêcher le groupement des bons, bien qu'ici encore le principe contre lequel on a honte à lutter les intentions vertueuses ait également sa place en nous-mêmes, et qu'on ne lui donne que par image, l'aspect d'une force extérieure.